Raphaël, t'es chaud ?
Oui, ça va.
Allez, on y va, jingle.
Si tu fais pas l'histoire, c'est pas l'histoire qui va te faire.
Hein ?
Histoire brève.
Histoire brève.
Alors que l'été s'annonce et que les températures ne font que monter en flèche, j'ai eu l'idée, moi aussi, de faire grimper le thermomètre jusqu'à des chaleurs inégalées durant cette matinale. Pour cela, je vais vous parler d'une année qui fut ô combien sulfureuse. Une année qui retourna dans tous les sens, en un véritable tête-à-queue, tout un empire. Cette année-là, c'est l'an 69 de notre ère, évidemment. Ah, monsieur de Paris, je vois tout d'un coup votre œil jusque-là morne éterne, encore embrumé, prisonnier des turpitudes de ce long week-end que vous passâtes entre les mains des démons de la fête, tout d'un coup s'illuminer, rutilé tant l'évocation de l'an 69 réveille chez vous quelque chose. De quoi s'agit-il ? Peut-on écouter ce qu'il y a en ce moment précis dans votre tête ?
Écoutons.
Certes, monsieur de Paris, certes. Je ne peux vous donner que raison, car cette année 69 fut effectivement particulièrement chaude. Mais je vais essayer d'exprimer avec des mots, peut-être un peu moins triviaux, pourquoi cette année 69 représente une révolution à 360 degrés pour l'Empire romain, ce qu'elle a de bouillant, politiquement parlant évidemment. En 69, l'Empire romain ne vit pas deux, ni trois, mais bien quatre, oui, quatre empereurs se succédaient en moins d'un an. Quel culbute, n'est-ce pas ? Et c'est l'histoire que je vais maintenant vous conter. Qu'y a-t-il, monsieur de Paris ? Vous avez l'air déçu et contrarié. Ne vous inquiétez pas, cette histoire n'est faite que de rebondissements, de félonies, de trahisons. Je vous promets du sang, mais pas de sexe. Ça devrait vous plaire. Un véritable reflet de la nature humaine.
J'avais envie de répondre, mais non, je te laisse continuer. Vas-y.
Non, on va éviter les dérapages.
Oui, c'est clair.
Tout commence en 68, alors que la fin du règne de l'empereur Néron approche. Ce dernier est devenu alors tellement impopulaire que nombre de généraux se soulèvent un peu partout contre son autorité dans l'empire qui est déjà immense. C'est le cas de Vindex, qui est battu en avril 68 à Besançon, mais aussi de Galba, alors gouverneur en Hispanie, qui voit la garde prétorienne, formée de soldats d'élite chargés de la protection des plus hauts personnages de l'empire, le proclamer empereur. Dans le même temps, le Sénat déclare Néron ennemi public. Ce dernier, déchu, s'enfuit de Rome et se suicide, assisté par son fidèle serviteur, qui n'est autre que son secrétaire, le 9 juin 68, en clamant « Ah, quel artiste meurt avec moi !» Entre parenthèses, vous avez là, monsieur de Paris, une phrase passe-partout que je conseille à tous pour son épitaphe. Le nouvel empereur est donc Servius Sulpicius Galba. Malheureusement, ce dernier, une fois arrivé à Rome, prend sa place et est devenu particulièrement impopulaire. Pourquoi ? Parce qu'il perd le soutien des légions, car il a refusé de leur donner le donabitum, une sorte de 13e mois de l'armée romaine.
Déjà à l'époque.
Oui. C'est le cas notamment des légions de Germanie qui proclament, pour s'opposer en fait à cette autorité de Galba, le 1er janvier 69, le gouverneur Vitellius, qui devient alors empereur en Germanie. La même chose se produit en Lusitanie, où l'armée choisit un certain Othon pour être à la tête de l'Empire. Ce dernier encourage d'ailleurs 120 membres de la garde prétorienne, de celle-là même qui avait choisi Galba empereur en 68, à le piéger et à l'égorger le 15 janvier 69 en plein milieu du Forum de Rome. Ces conspirateurs régicides ont d'ailleurs la bonne idée d'inscrire leur nom sur une liste et d'offrir la tête de Galba à ce général Othon. C'est donc celui-ci qui est choisi par le Sénat pour devenir en janvier 69 le nouvel empereur romain. La première chose qu'il fait est de faire massacrer la garde prétorienne, en s'appuyant notamment sur la fameuse liste des 120 régicides précédents. Qui ne l'aurait pas fait avec de tels antécédents, n'est-ce pas ? Une fois la garde prétorienne purgée, il s'attaque à son compétiteur Vitellius, qui est le seul à ne pas reconnaître son autorité. Il part donc l'affronter, mais il est défait lors de la bataille de Bédriac par deux généraux fidèles de Vitellius, près de Vérone en avril 69. Découragé, après seulement 3 mois de règne, Othon se suicide à son tour. Vitellius, grand vainqueur de son combat de coq à distance, quitte la Germanie pour se rendre à Rome, où le Sénat le proclame empereur. Sur le chemin, son armée pille sans ménagement les contrées traversées, notamment en Gaule. Vitellius compte soumettre l'Italie par la terreur, ce qui lui vaut en fait une grande impopularité. Les armées du Danube et de l'Orient lui préfèrent un autre candidat, un certain Vespasien, gouverneur de Judée. Fort de ses soutiens, Vespasien part donc pour l'Italie, affronter les armées de Vitellius à Crémone en octobre 69. Vitellius voit tous ses soutiens l'abandonner. Alors qu'il tente de fuir Rome, il est reconnu, capturé par la foule et lapidé. Son corps est traîné dans la cité éternelle et son corps est jeté dans le Tibre.
Autant pas faire les choses à moitié. Hein.
Non, c'est ça. Non. Vespasien est le nouvel empereur romain. Il est suffisamment prudent pour essayer d'enraciner solidement son pouvoir. En décembre 69, il fait adopter la Lex de Imperio Vespasiani, qui liste l'ensemble de ses prérogatives et qui définit qui seront ses successeurs, à savoir ses fils Titus et Domitien. Cette année 69 est donc faite de retournements, de cabrioles, de violence aussi. Mais elle a engendré au final l'avènement d'un empereur relativement populaire qui a su donner naissance à la première lignée dynastique directe de l'Empire, bien que nous puissions dire que l'accouchement fut pour le moins difficile.
Ouais. Préférons l'amour au sang, quand même.
C'est ça.
69, 4 empereurs, hallucinant.